Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 21. Une demi-heure plus tard, grâce aux manœuvres habilement commandées et exécutées avec précision, le lougre, le foudroyant, passait entre les deux cutters après avoir envoyé une bordée à chacun des deux navires anglais. Lorsque les trois bâtiments se trouvèrent engagés sur la même ligne, commença une fusillade très vive. Pendant quelques minutes, ce fut un feu roulant de mousqueterie. Les projectiles français devaient porter singulièrement juste, à en juger par les cris qui provenaient des deux navires ennemis. Sur le pont du Lougre, le branle-bas de combat avait appelé chacun à son poste. Le chevalier de Vaudrey, après avoir fait deux pelotons de ses hommes, en avait placé un à bâbord pour tirer à feu roulant sur le premier des cutters, tandis que l'autre peloton, à tribord, visait les hommes que l'on apercevait distinctement sur le second anglais. La fusillade se poursuivit, augmentant d'intensité au fur et à mesure que les bâtiments engagés se rapprochaient les uns des autres. La tactique de l'ennemi consistait à prendre l'imprudent lougre entre deux feux afin de le bombarder à bonne portée. Les Anglais espéraient ainsi arriver facilement et rapidement à le couler. Mais ils avaient compté sans le coup d'œil de M. de Virlay. En effet, tandis qu'il faisait tenir l'un des cutters en respect par les quatre pièces qu'il avait fait diriger sur le même côté, le commandant faisait manœuvrer en vue d'aller prendre l'autre Anglais à l'abordage. Le foudroyant gouverna en plein sur le cutter. Et lorsqu'il ne fut plus qu'à une faible distance de ce navire et que son beau pré était sur le point de donner en plein dessus, « Laisse arriver !» commanda M. de Virlay d'une voix de tonnerre. Vent debout donna un vigoureux tour au gouvernail. Et le lougre se trouva bord à bord avec l'anglais. Alors un cri, ce cri qui fait bondir d'émotion le cœur du marin, s'éleva. « Au grappin !» Aussitôt un choc se produisit comme si le lougre s'éventrait sur le coup. Les grappins d'abordage s'étaient abattus sur le plat-bord du cutter ennemi. « À l'abordage !» cria M. de Virlay, l'épée haute d'une main et le porte-voix de l'autre. Et s'adressant à Roger, tout frémissant d'ardeur, « En avant, chevalier ! En avant pour la France et le roi !» Puis ce fut le tour de Vent debout d'entraîner lui aussi le jeune débutant. « Mille tonnerres, petit » s'écria-t-il en brandissant une hache d'abordage. « Voici le moment de prouver qu'on a quelque chose au ventre, mille bombes !»« En avant, petit, et pas de quartier !» Les marins, officiers en tête, avaient donné l'exemple. Aussitôt les deux navires accrochés l'un à l'autre, une véritable avalanche humaine s'était déchaînée sur le pont de l'Anglais. Tout d'abord, l'équipage du cutter avait résisté avec courage, faisant bonne contenance contre l'intrépidité française qui lui était bien connue. Le premier choc avait été terrible. Puis la mêlée commença, sanglante, impitoyable. Ainsi que l'avait déclaré Vent debout, on ne faisait pas de quartier. Chaque coup portait, chaque homme essayait de faire sa trouée. On marchait sur l'ennemi abattu et râlant pour atteindre celui qui se présentait. Et le tumulte allait grandissant de seconde en seconde, dominé seulement par les cris des officiers, excitant leurs hommes au combat. Soudain, le chevalier de Vaudrey, ralliant ses soldats, les entraîna sur le pont déjà envahi. « En avant ! En avant » criait-il en brandissant son épée. Tout à coup, cette troupe fraîche, mais ignorant l'art de combattre à l'abordage, se trouva en présence des fusiliers marins anglais. Ils hésitent. Alors, le chevalier s'élance seul contre l'ennemi en criant « À moi, pour la France !» Aussitôt, ces soldats, qui venaient d'éprouver une seconde de défaillance, en voyant tomber successivement plusieurs des leurs, ces soldats novices sont électrisés par la voix et le geste énergique de leur jeune capitaine. Ils foncent tête baissée sur les fusils qui les couchent en joue, sur les pics d'abordage dont les pointes les menacent. « En avant !» continue de crier le chevalier. Subitement, Roger s'est trouvé en face d'un Anglais aux proportions de colosse. Celui-ci est armé d'un pistolet dont le canon se dirige sur le front du chevalier. Prompt à parer de l'épée, Roger a écarté l'arme dont on le menace. Et d'un coup droit, il transperce son adversaire qui roule comme une masse en poussant un cri d'agonie. 20 haches se lèvent à la fois pour venger la mort de l'officier anglais. Alors la lutte prend des proportions gigantesques entre ces hommes acharnés, furieux, aveuglés par le sang. Et les haches s'abattent toujours. Vent debout a poussé un cri terrible. Le vieux marin a vu le danger que court celui qu'il considère comme son élève. Il s'élance, fend la foule des combattants. Et s'adossant à Roger, tous deux font tête à la meute humaine qui vocifère et les assaille de toutes parts. Prends ma hache, petit, crie le marin à Roger, car avec ton aiguille à tricoter, on ne tue ni assez bien, ni assez vite. Le chevalier a saisi l'arme ensanglantée. Il la brandit et la laisse retomber au hasard de toute la force de son bras dans le tas de ses adversaires. Hardi, petit, hurle Vent Debout, tape dans le tas, tu toucheras toujours quelqu'un. Et Roger redouble de fureur. Il frappe, aveuglé par le sang qui inonde son visage, car il a reçu une blessure au front. Il frappe, sentant à chaque coup le fer de la hache mordre dans la chair qui crie. Il frappe, excité par la voix tonnante du maître de timonerie, laquelle l'encourage à ce massacre sans nom, à ce carnage sans quartier. Il frappe comme un fou, sans entendre les cris déchirants qu'arrache l'agonie, sans voir qu'autour de lui et de son impitoyable compagnon, les cadavres s'amoncellent, ensanglantés, hideux. Il frappe, tenant à présent la hache des deux mains, comme les preux d'autrefois broyaient les ennemis sous leur masse d'armes. Il frappe jusqu'à épuisement de ses forces, et quand il croit en avoir fini avec ses ennemis qui s'acharnent et succombent tour à tour, broyés, tailladés, hachés, d'autres bras se lèvent, d'autres poitrines se présentent pour la défense du pavillon anglais, qui continue de flotter à la corne du cutter envahi. Et toujours Vent Debout crie « Hardi, petit, tapons dans le tas !» Et au milieu du bruit de la bataille, on entend par instants comme des clapotements d'eau. Ce sont les corps acculés au plat-bord qui tombent à la mer. Un jaillissement d'écume leur sert de linceul. Et pendant quelques minutes, des cris d'agonie semblent sortir du fond des flots. Monsieur de Virlet arrive alors que le cutter est capturé. « Nous le tenons, mon capitaine, il est à nous !» lui crie Vent Debout en poussant une formidable exclamation de « Vive la France !» Le chevalier apparaît au milieu des combattants, le visage animé, maculé de poudre et de sang, les cheveux au vent, les vêtements déchirés, transpercés, brûlés. Il tient sa hache sanglante qu'il continue de brandir. « Je vous félicite, monsieur !» s'écria le commandant avec un regard d'admiration à l'adresse de ce jeune combattant, qui vient, il l'a vu, de faire des prodiges de valeur. Je sais, j'ai vu ce que vous avez fait. Et moi donc, mille bombes du diable, est-ce que je ne l'ai pas vu, moi, puisque j'étais là, auprès de lui, dos à dos, pour ne pas nous laisser entamer? Et le vieux marin continua. Ce qu'il a fait, tonnerre, faut pas le demander. Mais quand on retournera en France, on pourra dire que sans lui, et un peu aussi sans moi, le cutter n'appartiendrait pas aujourd'hui à Sa Majesté le roi de France. « Je le reconnais, déclara M. de Virlet, et je proclame M. de Vaudrey officier de la marine française. » En même temps, le commandant ouvrait les bras au chevalier qui s'y précipitait pour recevoir l'accolade. À ce moment, on amena le capitaine du cutter qu'on venait de faire prisonnier pendant qu'il envoyait la dernière balle de son pistolet dans la poitrine d'un matelot français. « Votre épée ?» demanda M. de Virlet. Alors, l'officier anglais, relevant fièrement la tête, « La voici. « Je l'ai usé sur vos hommes, » répondit-il froidement. Et il jetait aux pieds du commandant la poignée de l'arme à laquelle n'attenait plus qu'un fragment de la lame. « Vous êtes mon prisonnier, » prononça M. de Virlet d'un ton bref. « Je vais vous faire conduire à mon bord, ainsi que vos hommes. Où sont-ils? Veuillez les rallier autour de vous. » « Les voici, » fit l'anglais d'une voix tremblante d'émotion et de colère, et de sa main, il indiquait les cadavres qui jonchaient le pont. Tous les assistants se découvrirent. Enragé, implacable pendant l'action, ils redevenaient humains en présence des ennemis tombés pour l'honneur de leur drapeau. Alors Roger, sur un signe de Vent Debout, s'arrachant à ce spectacle, s'élança vers la corne du cutter et abattit d'un coup de hache le pavillon anglais qu'il rapporta triomphant pour l'offrir au commandant du Louvre. Mais M. de Virlet répondit « Gardez ce trophée, vous le rapporterez en France comme une preuve du courage et du patriotisme que vous avez déployé dans le premier combat naval auquel vous avez assisté. » Quelques minutes plus tard, le pavillon français flottait à la corne du cutter, amariné par le foudroyant. « J'ai vengé ma chère corvette !» s'écria alors M. de Virlet, tandis qu'une escorte de marins et de soldats, commandée par le chevalier de Vaudrey, emmenait le capitaine anglais, prisonnier, à bord du Lougre. Pendant que ses officiers, en partie et à peu près les deux tiers de l'équipage du foudroyant, s'emparaient de l'un des cutters, ainsi qu'on l'a vu précédemment, M. de Virlet se chargeait de tenir à distance le second navire. Il avait conçu la pensée de les capturer l'un après l'autre. Or, c'était maintenant le tour du second Anglais de passer par les canons et la mousqueterie du foudroyant. Mais tout à son triomphe, M. de Virlay venait de négliger son autre adversaire lorsque tout à coup un cri retentit, formidable. « On nous aborde !» C'était effectivement le cutter qui, ayant éteint son feu à l'exemple du Français, venait de présenter son plat-bord à la muraille du Lougre. « À tribord tout le monde !» hurla Vandebout, ralliant ses hommes. Mais déjà, les marins anglais avaient lancé à leur tour les grappins d'abordage et envahissaient le pont du foudroyant. Ils espéraient surprendre les Français en plein triomphe et le changer en défaite. Nos marins, tout entiers à la joie de l'éclatant succès qu'ils venaient de remporter, s'étaient laissés surprendre par cette brusque attaque. D'un coup d'œil, M. de Virlay jugea la gravité de la situation. Impassible, il courut à son banc de quart, et c'est de là que partaient des ordres pour le combat qui déjà s'engageait sur le flanc du Lougre, où pendaient de véritables grappes humaines, les marins anglais se faisant la courte échelle pour monter sur le pont de leur ennemi. Vandebout se tenait la hache à la main auprès du commandant. Il était devenu pâle comme un mort, et son visage avait subitement pris une expression de violente colère. À Roger, qui passait à la tête de ses soldats pour aller repousser les Anglais dont le flot débordait sur le pont, le vieux marin cria « Halte-là, monsieur le chevalier! Il est inutile que vous alliez vous faire tuer! Ils sont là-bas assez des nôtres pour refouler et jeter à la mer cette poignée de godems !» Et puis il ajouta plus bas « J'ai besoin de causer avec vous. Est-ce bien le moment? Ce que j'ai à vous dire est d'une grande importance, et du reste ne nous prendra que quelques instants. Venez !» Et saisissant Roger par le bras, il l'emmena dans un coin de la dunette, derrière le banc de quart. « Vous êtes un vrai brave, vous » commença-t-il, « et aux hommes de votre trempe, on peut tout dire, tout confier. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans beaucoup d'explications. Voici donc la chose. Nous devons enlever cet autre tout comme le premier. Je l'espère bien, mais ce ne sera pas aussi facile. Avec des marins comme vous, maître Mathieu, tout est possible, tout devient facile. Pour lors, monsieur le chevalier, puisque vous avez tant de confiance en moi, voici ce que je vous prie de faire tout de suite. Parlez. Il faut que vous preniez le commandement de tous ces hommes éparpillés là-bas. Bien, et qu'ensemble nous repoussions les Anglais, et que nous embarquions à leur suite sur leur navire. Nous déplacerons ainsi le combat. C'est ce que je ne veux pas. Mais que prétendez-vous donc? Gardez tous ces gredins d'habits rouges sur le foudroyant. Prisonnier? Prisonnier? Roger ne put s'empêcher de faire un léger signe d'incrédulité. Je vous dis que ça doit être, et ça sera. Donc, vous me demandez d'aller rallier les nôtres autour de vous et de les obliger à battre en retraite. Ils refuseront. C'est à vous de leur persuader qu'il faut vous obéir. Ne serait-il pas bon que vous prissiez au moins les ordres de notre commandant? Je voulais éviter ça. Il est là, indiqua Roger, qui ne voulait pas assumer une aussi grande responsabilité que celle d'ordonner la retraite. Mais vous ne comprenez donc pas, monsieur le chevalier, que j'ai mon idée? Confiez-la moi, au moins. Ça ne se peut pas. Alors, vous refusez? Je vous engage à m'en faire donner l'ordre formel par le commandant. D'un bond, Vandebout se porte à côté de monsieur de Virlay et s'entretint tout bas avec lui. Au bout d'un instant, « Capitaine de Vaudrey !» appela le commandant en faisant à Roger signe d'approcher. Et lorsque le chevalier eut obéi, « Je vous autorise à faire ce que vous a dit le maître de timonerie. Je n'ai donc plus qu'à m'incliner, monsieur le commandant, et à vous faire obéir rigoureusement. » Et il ajouta avec un geste amical, « Allez, monsieur le chevalier, allez, capitaine de Vaudrey. Il y a encore pour vous à accomplir une action d'éclat, je vous le promets. » Le chevalier courut aux hommes qui se trouvaient au plus fort du combat. « En arrière » commanda-t-il d'une voix forte. « En retraite sur l'arrière !» Et comme les marins s'étonnaient de cet ordre, alors qu'ils tenaient courageusement et vigoureusement tête aux assaillants, « C'est l'ordre de votre commandant !» leur cria le chevalier en indiquant du doigt M. de Virlay, qui se tenait à son banc de quart. Tous les regards se tournèrent vers ce chef aimé et respecté. « Obéissez !» commanda le capitaine du Lougre. Et Vandebout répéta de sa voix de tonnerre, « Obéissez, mille milliards de bombes !» Le mouvement de retraite commença aussitôt, s'accentuant peu à peu. Les Français ne reculaient que pas à pas, la poitrine face à l'ennemi. Ils cherchaient et réussissaient à attirer les assaillants sur le pont du Lougre. Le capitaine anglais, croyant la victoire certaine, excitait ses hommes à passer sur le navire ennemi. Il ne resta bientôt plus sur le cutter que deux matelots et le capitaine. C'était probablement ce qu'avait espéré Vandebout, car après avoir serré avec effusion la main du commandant de Virlay, on le vit tout à coup s'élancer par-dessus bord, la hache à la main. Témoin involontaire de cet acte qu'il ne s'expliquait pas chez un homme de la trempe du vieux loup de mer, le chevalier de Vaudray était demeuré indécis sur le parti à prendre pour porter secours à celui qui allait, pensait-il, infailliblement se noyer ou tout au moins courir le plus grand danger. Monsieur de Virlay lui cria « Laissez-le agir !» Le chevalier vit tout à coup le vieux marin se dresser comme un fantôme sur le pont du Cutter, en face du capitaine resté à son banc de car. Vent Debout leva sa hache qui s'abattit aussitôt sur le crâne de l'officier anglais. Celui-ci s'affaissa dans une mare de sang. Alors, Vent Debout, poursuivant son œuvre de mort, bondit sur les matelots anglais terrifiés. Il frappait sans pitié. Puis, comme il ne vit plus d'adversaire à abattre, il cria à Monsieur de Virlay. « C'est fait, mon capitaine ! Maintenant, à la grâce de Dieu !» Après avoir prononcé ces mots, le terrible marin disparut subitement par une des écoutilles du cutter. Le chevalier avait été témoin de cette scène dont le côté mystérieux l'intriguait, d'autant plus qu'il se souvenait que Vent Debout lui avait confié qu'il suivait un plan à lui. Ce qu'on avait vu de la façon dont le maître de timonerie venait de se comporter sur le cutter, qu'il avait attaqué pour ainsi dire à lui seul, n'était donc qu'une partie de ce plan. Roger ne fut pas longtemps à reconnaître que M. de Virlay était au courant de ce qui allait se passer. « Commandant, dit-il en s'approchant avec vivacité de M. de Virlay, nous avons obéi, aussi bien vos marins que mes soldats. Nous avons rétrogradé autant que possible. « C'est bien, répondit le capitaine du Loup. Mais, commandant, suivi, pour ne pas dire poursuivi comme nous le sommes, il n'y a pas moyen de pousser plus loin la retraite. Attendez. À moins de nous faire culbuter dans la mer, il faut que nous refoulions les Anglais qui ont complètement envahi votre bord. Attendez encore. Commandant, si nos hommes ne reprennent pas l'offensive, les Anglais vont atteindre vos quatre pièces, les enclouer et les lancer par-dessus bord. » M. de Virlay eut un sourire. « Votre calme, votre sang-froid devrait me rassurer, commandant, et cependant, l'évidence est là. » Le capitaine du Lougre lui dit « Que m'importe l'évidence ?» Et avec un éclat de voix « Tenez, chevalier !» répondit le commandant. « La voici, l'évidence !» Il avait saisi le bras de son interlocuteur et faisant faire demi-tour à celui-ci, il lui désigna du doigt le cutter anglais dans l'intérieur duquel on avait précédemment vu disparaître le maître de timonerie. Roger regarda aussitôt dans la direction indiquée. « Que remarquez-vous là ? » lui demanda M. de Virlay. « J'aperçois des corps étendus sur le pont, et au milieu d'eux le cadavre de l'officier qui commandait le navire. Et c'est tout ? Que puis-je remarquer de plus ? Regardez le plat-bord de l'anglais. J'y vois les grappins d'abordage qu'il attache à nous par des liens de fer. Vous ne remarquez pas, chevalier, que depuis que je vous parle, ces grappins se tendent singulièrement ? C'est vrai ! Le foudroyant paraissait en effet être entraîné par le cutter. « Faites avancer quatre hommes armés de haches, afin de briser ces grappins !» Le chevalier de Vaudray s'élança la hache à la main. Pendant quelques secondes, M. de Virlay put le voir se frayer un passage à coups de hache dans la masse des ennemis. Il commençait à devenir fiévreux et irrité le commandant. Au sang-froid dont il avait donné la preuve, succédait une agitation causée par la difficulté qu'éprouvait le chevalier de Vaudray à réunir les hommes nécessaires. Après des efforts acharnés, Roger revenait avec deux matelots seulement. « Mille tonnerres ! » s'écria M. de Virlay en s'élançant de son banc de car. « Vous ne voyez donc pas que le cutter coule à pic ?» Ce fut comme une révélation pour le chevalier. Il comprenait maintenant le rôle qu'avait voulu jouer Vent Debout dans ce combat extraordinaire. M. de Virlay ne lui laissa pas le temps ni de se reconnaître, ni d'interroger. « Mais mille cornes du diable » cria-t-il en saisissant une hache qui gisait sur le pont, abandonnée pendant le combat. « Vous ne voyez donc pas, vous autres, que l'anglais coule, et que si nous ne brisons les grappins, il va nous entraîner avec lui ?» Aussitôt, les haches s'abattirent non sur le fer des grappins qu'elles n'auraient pu mordre utilement, mais contre le plat-bord du cutter. C'était le seul moyen de se détacher du bâtiment, qui, ainsi que l'avait déclaré le commandant, coulait à pic. Comment la chose s'était-elle produite ? On l'a déjà deviné, sans doute. Vent Debout, après s'être débarrassé du capitaine, et des matelots anglais qui étaient demeurés sur le pont du cutter, avaient précipitamment descendu les marches qui conduisaient dans la cale. Avec une promptitude inouïe, il s'était mis à ouvrir des voies d'eau à coups de hache dans le navire. Et il avait réussi avec un extrême bonheur à mener à bien cette rude opération. Mais les deux navires étaient encore étroitement cramponnés l'un à l'autre, alors que déjà l'anglais s'engloutissait au fond de la mer. Aussi, lorsque Vent Debout reparut sur le pont, sa hache à la main, poussa-t-il un véritable cri de fauve. Du premier coup d'œil, il avait jugé la situation. C'était la défaite certaine au lieu du triomphe assuré. « Mille tonnerres » hurla-t-il avec un geste de fou. « Que faites-vous donc, vous autres ?» L'écume lui venait aux lèvres. La colère faisait saillir ses yeux hors des orbites. Il s'élança, et lui aussi se mit à hacher avec fureur. Chaque coup de son arme, terrible en sa main exercée, faisait voler des morceaux arrachés au plat-bord du cutter. Mais celui-ci coulait avec une rapidité effrayante. « Hardi, les gars !» cria Vent Debout en faisant rage. « Hardi, vous autres, il s'en va ! Il s'en va, nom d'un tonnerre !» Et de nouveau, ils s'épuisaient dans cette lutte contre le bois qui ne se brisait pas assez vite. De leur côté, les marins du Foudroyant et Roger s'escrimaient de leur mieux. Monsieur de Virlay, le premier, donnait l'exemple pour faire sa part de cette besogne dont dépendait maintenant le sort du Lougre et de tous les Français embarqués à son bord. Moment critique, il s'en fut et qui remuait singulièrement le chevalier de Vaudrey. Roger avait compris dans quelle épouvantable situation on se trouvait, et sa pensée, reportée vers Henriette, s'affola. Il entrevit la mort, mort horrible du noyé, après tous les efforts déjà accomplis, toutes les espérances qu'il entretenait en lui, et son âme éprouva les mortelles angoisses du désespoir. Il luttait pour la vie à présent, il redoublait de vigueur, trouvant dans l'excès même de son désespoir une énergie qui se renouvelait sans cesse à mesure que ses forces s'épuisaient. Et témoin des progrès que faisait l'eau, envahissant la cale et l'entrepont, il s'excitait lui-même et excitait les autres en criant comme un possédé. « Mort de Dieu, nous n'avons pas le temps d'en finir avec cette carcasse de malheur !» Puis tout à coup, il demeura la hache levée et comme frappé de stupeur. Et cette exclamation déchira sa gorge. « Nous sommes perdus !» En effet, l'eau avait gagné avec une rapidité foudroyante et déferlait sur le pont avec la violence d'un torrent. Dans quelques instants, le cutter allait être entièrement submergé. Debout, ayant de l'eau jusqu'aux genoux, le maître de timonerie hésitait à recommencer le travail qu'il jugeait désormais inutile. Et cependant, son bras levé s'abattit de nouveau. La hache fit voler encore un éclat. Tout à coup, un craquement se produisit et le plat-bord de l'Anglais céda. Le foudroyant était débarrassé. Un hourra formidable accueillit cet événement heureux sur lequel on n'était plus, pensait-on, en droit de compter. Aussitôt, M. de Virlay emboucha son porte-voix, et de sa voix tonnante, il commanda à ses hommes de ne plus faire de quartier. Alors, les Français, reprenant l'offensive, se ruèrent comme des fauves sur leurs adversaires. Le combat recommençait, furieux. Dans leur élan irrésistible, les marins du Foudroyant faisaient un épouvantable carnage. Les Anglais, découragés à la vue de leur navire qui sombrait, jetaient bas les armes, imploraient l'adversaire qui les chargeait avec rage. Le pont du Lougre était couvert de cadavres, de mourants, de blessés poussant des cris lamentables. Et malgré la défaite de l'ennemi, la lutte continuait avec une férocité inouïe. Les officiers anglais rendaient leurs épées, les matelots du cutter fuyaient de toutes parts, cherchant un refuge dans la mâture du Lougre. Quelques-uns, affolés à la perspective de la mort qui les attendait, se tenaient suspendus par les mains en dehors du navire français, prêts à tomber à la mer à la moindre attaque nouvelle. Et M. de Virlay continuait de commander qu'on ne fît pas de quartier. « Vous n'aurez donc pas pitié d'eux ?» prononça le chevalier de Vaudrey d'une voix que l'émotion faisait vibrer. « Ils n'ont pas eu pitié de moi, ni de ma pauvre chère corvette !» riposta le terrible commandant. Mais à un moment, alors que l'équipage anglais était fait prisonnier, un cri, parti du cutter englouti, vint glacer les matelots de M. de Virlay. Ce cri que Roger avait entendu pendant qu'il discutait avec le commandant, c'était Vent Debout qui l'avait poussé. Le vieux marin s'était hissé sur le mât qui apparaissait seul maintenant au-dessus de l'eau. De là, il avait vu le foudroyant s'éloigner, entraînant, enchaîné à son arrière, le cutter capturé, qui l'emportait comme un trophée de sa victoire sur les deux Anglais. Vent Debout se voyait abandonné et poussa un cri de détresse. On pensait qu'il avait eu le temps de sauter à bord du Lougre, lorsque ce navire s'était brusquement détaché de l'Anglais qui sombrait. À la clarté de la lune, on pouvait voir le malheureux, un bras levé, appelant à lui. Et le foudroyant avait le cap sur la terre dont on apercevait les feux. M. de Virlay commanda de mettre une embarcation à la mer. Mais le mât descendait rapidement. Le temps pressait. Déjà, Vent Debout avait les pieds au ras des vagues. On eût dit à le voir se dresser jusqu'au sommet du mât, qu'il se tenait debout sur l'eau comme un fantôme sur la mer. Roger était là, frémissant, excitant du geste et de la voix les matelots qui armaient la chaloupe. « Il ne sera plus temps !» cria-t-il en tendant les bras. Alors, une idée folle et sublime à la fois lui vint, comme une inspiration d'en haut. Il arracha une des bouées de sauvetage qui se trouvait sur la dunette. Il la tint embrassée et, sans se donner le temps de la réflexion, il s'élança dans la mer. Un cri sortit de toutes les poitrines. M. de Virlay ne put retenir cette exclamation. « Oh, le brave gentilhomme !» Et tandis qu'il pressait les matelots de mettre la chaloupe à la mer, Roger apparaissait au sommet d'une vague. Il nageait d'une main, se soutenait de l'autre, et la Providence aidant, il s'approchait du naufragé. Vent debout, étonné de cette hardiesse, oubliant le danger de mort qu'il courait lui-même, ne trouvait que cette phrase qui lui était familière. « Hardi, petit !» Roger était à bout de force. Quelques brasses le séparaient encore du marin en détresse. Il se sentait couler. Soudain, le mât auquel se tenait vent debout disparut. Le vieux marin était englouti. Roger fit un effort suprême. Il nagea en désespéré dans la direction où tout à l'heure encore se trouvait l'épave. Un choc fit enfoncer la bouée de sauvetage. En même temps, la tête de vent debout apparut au-dessus de l'eau. Le chevalier saisit cette tête par les cheveux. Retrouvant une vigueur qu'il n'espérait plus, il souleva le noyer. Le maître de timonerie se cramponnait désespérément à son sauveteur. C'était la mort pour les deux hommes, cramponnés l'un à l'autre. Poussé par l'instinct de la conservation, vent debout se débattait, entraînant le chevalier. « À moi ! À moi !» criait Roger, cherchant à se soutenir sur la bouée qui vacillait et s'enfonçait sous le poids des deux corps. Et par cette nuit d'étoiles, au feu d'argent, dont la lueur éclairait la mer, du pont du Lougre, les marins assistaient, désespérés et poussant des cris de rage impuissants, à cette scène lugubre. Morne, M. de Virlay attendait, suivant des yeux l'embarcation qui faisait force rame. Soudain, une exclamation s'échappa de sa gorge contractée par une indicible émotion. Et le commandant intrépide, le marin que rien ne pouvait arrêter dans son humeur guerrière, les mains levées au ciel, s'écria « Soyez bénie, Vierge du bon secours !» C'était le remerciement parti du fond de ce cœur naguère encore si implacable qui s'envolait vers celle à l'intervention de qui le marin croyait devoir le salut des deux naufragés. Vent debout et Roger venaient d'être hissés à force de bras dans l'embarcation qui s'était portée à leur secours. Il était temps. Les deux hommes avaient déjà presque perdu connaissance. Vent debout, principalement, ne pouvait répondre aux paroles qu'on lui adressait. Il demeurait étendu dans le fond de la chaloupe, où le médecin du foudroyant, bien qu'ayant été assez grièvement blessé pendant le combat, avait voulu aller donner des soins aux deux noyés. Roger, d'abord anéanti, eut rapidement retrouvé toute sa présence d'esprit. Il demeurait étendu, ainsi que l'avait exigé le médecin du bord, et l'on opérait sur lui de vigoureuses frictions en vue de prévenir les accidents qui pouvaient se produire. Mais lui, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui, n'avait qu'une pensée dans la tête, qu'un nom sur les lèvres, et il le murmurait dans chaque souffle qui s'exhalait de ses lèvres bleuies par le commencement d'asphyxie qu'il venait de subir. L'embarcation se dirigeait de nouveau vers le Lougre. On aborda au bout de quelques minutes. Tout l'équipage s'était porté sur le côté par où l'on allait hisser les deux naufragés. M. de Virlay voulait les recevoir et avait fait descendre l'escalier d'honneur dont on ne se servait que dans les grandes occasions et pour recevoir les chefs supérieurs qui visitaient le Lougre. Le commandant se tenait en haut de l'escalier, calme, mais intérieurement remué par une violente émotion. Dès que le corps de vent debout se présenta sur la première marche de l'escalier, porté plutôt que soutenu par deux matelots, M. de Virlay descendit précipitamment les quelques marches qui le séparaient du maître de timonerie. Il saisit le marin dans ses bras sans pouvoir prononcer d'autres paroles que ces mots qu'il répétait. « Mon vieux camarade, mille tonnerres, mon pauvre vieux !» Et il étreignait son vieux compagnon d'armes avec une affectueuse rudesse de mouvement, répétant tout bas des mots que seul vent debout pouvait entendre. Sur le pont commença, une heure plus tard, la manifestation en l'honneur du maître Mathieu, qui à lui seul avait pris et coulé le cutter. On l'acclamait avec frénésie. On l'entourait, on le soulevait, on l'emportait à bout de bras, en triomphe, malgré les efforts qu'il renouvelait pour se faire remettre sur ses jambes. Et il criait en gesticulant pour désigner Roger que deux autres matelots avaient hissé sur leurs épaules. « Là, celui qu'il faut porter en triomphe, c'est lui le brave, c'est lui qui ne rechigne pas devant le danger, c'est lui qui m'a sauvé, tonnerre du diable !» Chevalier de Vaudrey arriva aussi sur la dunette. et dès qu'il eut pu remettre le pied par terre, il courut à vent debout, qui lui tendait les bras en s'exclamant. « Par ici, petit, il faut que vous fassiez tout le chemin à vous seul, car j'ai des crampes dans les jambes, et je crois bien 1 000 000 000 de flammes de l'enfer que j'aurai mes pauvres quilles raides pendant tout le reste de mes jours. Mais ce n'est pas tout de vous remercier et de vous embrasser, comme font tous ces braves gens qui ont vu ce que vous saviez faire, tout novice que vous êtes, et qui vous admirent comme si vous étiez déjà un amiral. Non, reprit-il en s'animant, ce n'est pas tout que je vous dise que je penserai à vous tant qu'il y aura encore une goutte de sang dans la vieille carcasse avant debout. Ce que je veux, c'est vous faire un cadeau qui vous rappelle, car vous pouvez bien l'oublier, que vous avez sauvé la vie avant debout, quand il y avait 100 à parier contre un, que nous ne reviendrions ni l'un ni l'autre de cette noyade-là. Un cadeau ? Répondit Roger étonné. Alors, à la stupéfaction générale, Vent debout dénoua autour de sa taille une sorte de ceinture rouge qu'il se mit à dérouler lentement. Puis, l'agitant en l'air et la montrant à tous les assistants en poussant un formidable cri de « Vive la France !» C'était le pavillon anglais que le maître de timonerie avait arraché de la corne du cutter avant de couler le bâtiment qu'il venait de capturer à lui seul. « Tenez, petit, je vous fais cadeau de ce pavillon, si monsieur le commandant veut m'en donner l'autorisation. Je te la donne avec plaisir, et j'approuve hautement ce que tu fais là avant debout, » s'écria monsieur de Virlet. « Pour l'or, petit, voilà l'oripeau, comme on dit chez nous, et comme vous en avez déjà un que vous avez gagné, ça vous en fera deux. » Et il ajouta en s'efforçant de retrouver toute sa gaieté des bons jours. « Pour peu que ça continue, vous allez collectionner là-bas tous les drapeaux de l'armée britannique, mille tonnerres !» Cette scène se termina par une grande distribution de vin et d'eau-de-vie que M. de Virlet fit donner à l'équipage français et aux prisonniers anglais eux-mêmes. On toasta en l'honneur des armes françaises et chacun voulut choquer son verre contre celui de Roger lorsque M. de Virlet porta la santé du chevalier de Vaudrey. Le lougre filait à présent vent arrière, car la brise avait tourné. Le foudroyant aborda la passe, tous ses feux allumés, le pavillon français flottant à sa corne, et aussi sur le cutter capturé. Quelques instants plus tard, le lougre entrait dans le port, et allait se placer à son rang, en avant de l'escadre de transport. Au petit jour, le foudroyant salua la terre américaine des 21 coups de canon réglementaires. Les batteries du port répondirent. Puis ce fut au tour de chaque navire français de saluer le pavillon du commandant de l'escadrille. Quand on apprit les détails du combat soutenu par le lougre contre les deux Anglais et dans lequel il avait capturé l'un et coulé l'autre, il y eut une grande effervescence dans la ville. Toute la population s'était portée au-devant de ceux qu'elle acclamait vainqueurs des Anglais. Le chevalier de Vaudrey marchait à la tête du détachement dont Lafayette lui avait donné le commandement. Hélas, sur les 25 hommes qu'on lui avait confiés, 5 manquaient à l'appel. Ils avaient péri dans la mêlée, alors que sur le pont du foudroyant envahi, le combat avait pris les proportions que l'on sait. Mais une surprise attendait le chevalier. Lafayette, en débarquant, avait trouvé une lettre de Washington lui recommandant de se mettre en route pour le rejoindre avec la plus grande partie des troupes dont il pouvait disposer. Et cela sans perdre une minute. Dans sa lettre, le généralissime américain faisait part à son ami Lafayette d'un plan hardi qui consisterait à rallier les boys, garçons, de la Montagne Verte afin de faire avec eux une puissante diversion et prendre entre deux feux l'armée anglaise. Il s'agissait pour cela de former un petit corps à Vermont et de le faire marcher à la rencontre des troupes de Washington dans le Massachusetts. Il s'agissait d'un mouvement d'une grande hardiesse, mais qui, par cela même, deviendrait décisif s'il réussissait. Si vous avez avec vous un officier intelligent et intrépide, sur le dévouement duquel vous puissiez compter, écrivait Washington, n'hésitez pas. Lafayette avait pensé que le chevalier de Vaudrey, réunissant les deux conditions indispensables, intelligence et intrépidité, était l'officier tout désigné pour la diversion à faire du côté de Vermont. Le général français avait donc, en partant, laissé des instructions très détaillées pour Roger. Le gouverneur était chargé de remettre en main propre au chevalier de Vaudrey la lettre du marquis. Lorsque celui-ci eut pris connaissance de cette lettre, il alla immédiatement faire part à M. de Virlet. En apprenant que Roger allait se séparer de lui, Vent debout, incapable de contenir son émotion, embrassa énergiquement celui que plus que jamais il appelait son élève. Et c'est d'une voix mouillée de larmes qu'il souhaita bon voyage et bonne chance à l'officier en s'écriant « Hardi, petit, vous v'là en pleine route de la gloire, mille tonnerres, et j'espère bien que vous allez revenir général, tout comme monsieur de Lafayette. » Le chevalier et ses 20 hommes se mirent en route pour Vermont, accompagnés d'un guide indien auquel le gouverneur accordait une confiance absolue. Cependant, Roger, après tous les événements auxquels il avait pris une part si importante et si glorieuse depuis son départ de l'île d'Aix, n'était encore qu'au commencement des dangers qu'il allait affronter pour l'amour d'Henriette et des terribles épreuves par lesquelles il devait encore passer.